Bonjour David Habib.
Bonjour.
On va parler du deuxième débat de la primaire, bien entendu, c'est pour ça qu'on vous a invité. Mais d'un mot, d'abord, puisque vous êtes vice-président du groupe d'amitié France-Israël, la conférence de paix sur le conflit israélo-arabe organisée hier par la France à Paris, boycottée et dénoncée par Israël, vous semblait-elle une initiative opportune ?
Alors, il est toujours opportun d'essayer de faire la paix. Je suis un petit peu surpris quand même sur les modalités d'organisation et sur la faiblesse des ambitions. Si on doit faire quelque chose, bon, on y va jusqu'au bout, on essaie de trouver un calendrier qui est un petit peu plus propice que la transition entre deux administrations américaines, et on essaye de mobiliser l'ensemble des acteurs en évitant les faux pas qu'on a pu constater dans l'organisation de cette manifestation. Alors, je le dis, je n'ai absolument rien, parce que je sais comment fonctionne notre système politique. Je suis pas du tout critique à l'égard de Jean-Marc Ayrault, qui est un homme pour lequel j'ai une grande estime et un grand respect. Mais je pense que eu égard à l'histoire de ce conflit, il faut être extrêmement attentif, extrêmement vigilant dans l'organisation de ces manifestations.
Alors, le deuxième débat de la primaire organisé par le Parti Socialiste a eu lieu hier, en fin d'après-midi. Est-ce que vous pensez qu'il a aidé les sympathisants de gauche à se faire une idée plus précise du candidat qu'ils vont choisir ?
Je dis oui. Je suis pas objectif, mais je dis oui. Je pense qu'effectivement, on a vu un candidat, Manuel Valls, qui, sur tous les domaines, affirme sa présidentialité, qui affirme son autorité, qui en même temps rappelle que...
Son autorité, ça peut être dangereux, puisque oui, c'est aussi un des reproches qu'on lui a fait.
Bien sûr.
L'autoritarisme, en l'occurrence.
Mais je crois que dans une période aussi confuse que la nôtre, avoir un président de la République qui a une perspective, une vraie vision, qui sait où il va, qui saura conduire et animer une majorité, c'est une chose précieuse. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a rappelé, par des choix politiques, par des propositions qu'il a faites, qu'il est sincèrement, presque consubstantiellement de gauche.
Qu'est-ce que Manuel Valls propose d'autre que son envie, son énergie, son expérience, pour reprendre les termes qu'il a utilisés hier, qu'il avait d'ailleurs déjà employé lors du premier débat ? Au fond, est-ce que vous avez l'impression qu'on y voit clair dans sa vision de la France, ou est-ce que la forme des débats ne le permet pas vraiment aussi.
Alors, la forme pose problème, incontestablement, et je pense que le débat qui interviendra au deuxième tour permettra d'avoir une vision plus claire des opinions des deux candidats appelés à participer à ce deuxième tour du scrutin. Il y a des tas de propositions qui font l'originalité de Manuel Valls. Moi, je suis un élu du Sud-Ouest. Je suis élu à 800 km de Paris. Les déserts médicaux, par exemple, je sais ce que c'est. Et quand Manuel Valls dit qu'il faut repenser complètement la politique médicale de notre pays, quand il dit qu'il faut supprimer le numerus clausus, quand il dit qu'on ne peut plus être dans une démarche uniquement incitative, mais qu'on doit avoir une organisation de la santé qui soit un peu plus directive, il répond à un certain nombre d'enjeux que nous pouvons connaître. Quand il parle de ses relations avec Poutine et avec Trump, et il dit qu'il faut une France forte face à ces deux hommes politiques qui sont dans le rapport de force, il nous rappelle que l'Europe ne peut pas fonctionner comme elle a fonctionné et être dans une gentille participation aux négociations internationales. Manuel Valls, c'est à la fois des convictions et en même temps une grande modernité par la réalité qu'il porte.
Alors, le débat a été un peu plus vif, un peu plus animé que le premier. Manuel Valls a notamment été pris à partie par Benoît Hamon et Vincent Peillon sur la question de l'accueil des migrants. C'est difficile, a dit Manuel Valls, de tenir l'engagement d'accueillir 30 000 migrants. Les frontières existent bel et bien, a-t-il ajouté. On ne peut pas faire croire à l'accueil illimité. La question lui a été posée hier soir, mais je vous la pose aussi. Est-ce qu'au fond, Manuel Valls manque de générosité ?
Non, il manque pas de générosité.
Ce sont les autres qui sont naïfs ?
Je pense, oui, que Vincent Peillon, qui peut-être n'était pas en France et qui était peut-être trop lui-même à l'extérieur, en Suisse, n'a peut-être pas vu combien, pendant cette période, l'état d'esprit des Français n'était pas préparé, et je le regrette, n'était pas préparé à l'accueil des migrants. Je vous l'ai dit, moi je suis des Pyrénées-Atlantiques, où on a une tradition d'accueil très forte avec l'ensemble et des pays européens et des pays d'Afrique. Je suis pas certain qu'à ce moment-là, y compris les Béarnais, étaient capables d'accueillir des populations nouvelles. C'est un petit peu différent aujourd'hui.
Alors là où il y a une différence aussi assez nette qui s'exprime, c'est sur la question de la laïcité. Manuel Valls en a fait un marqueur. Il est le plus ferme sur la question. Il est d'ailleurs le seul, à, quand il en parle, à l'associer à la question de l'islam radical et à le nommer, à parler du salafisme. Ça, c'est une vraie différence à vos yeux?
Il a l'expérience de celui qui est maire. Qui a été maire d'Evry. Moi, je vais vous dire, j'ai été maire d'une ville qui avait 62% de logements sociaux. J'ai été élu en 1995. En 1995, le problème ne se posait pas. En 1995, les femmes qui portaient le voile dans ma ville étaient, de plus de 40 ans, étaient très, très peu, très rares. En 2014, quand j'ai quitté mes fonctions de maire, les femmes de 40 ans qui ne portaient pas le voile étaient l'exception. Il y a eu un changement profond au sein de la communauté des Français, moi je le rappelle, des Français qui sont de confession musulmane, et nous devons prendre en compte cette réalité, notamment pour aider les femmes à pouvoir exercer pleinement leur souveraineté, pleinement être des actrices de notre démocratie. Nous avons des devoirs vis-à-vis d'elles. Et le rappel des règles de démocratie, les rappels des règles de laïcité, c'est à la fois une chance pour la société française, mais c'est d'abord une chance pour les personnes qui appartiennent à la communauté musulmane de France.
François Hollande semble regretter sa décision de ne pas se représenter. Je ressens, a-t-il dit hier, un goût d'inachevé qui aurait dû justifier d'autres prétentions. Jean-Marc Ayrault a dit également hier que probablement François Hollande regrettait cette décision. Comment vous comprenez cet état d'esprit et ces confidences ?
Elles sont normales pour quelqu'un qui aurait aimé être candidat et qui a fait le bilan et a considéré qu'il ne pouvait pas y retourner. Entre nous, je pensais que les uns et les autres, du moins ses conseillers, auraient compris qu'un président ne pouvait pas tout dire. Ouais. Y compris...
C'est plus fort que lui.
C'est plus fort que lui, c'est la preuve qu'il est... Parce que c'est un homme qui est adorable, François Hollande. C'est un homme qui a une vraie épaisseur au sens psychologique du terme. Ses conseillers n'arrivent pas à lui dire combien il faut parfois être silencieux.
L'avocat Dominique Villemot, qui est très proche de François Hollande, a dit hier que François Hollande pourrait soutenir Macron. Il a démenti ses propos qui étaient rapportés par le JDD, mais le JDD maintient. Il y a Jean-Pierre Mignard, qui est également avocat et également très proche de François Hollande, qui lui a fait le pas. Est-ce que ça vous paraît crédible, ce scénario, que François Hollande soutienne Macron ?
Non, et je pense que François Hollande devrait avoir moins d'amis dans le barreau. Parmi les avocats. Non, plus sérieusement, je pense que François Hollande est authentiquement socialiste. Personne ne peut lui contester ça. Il a tellement œuvré, tellement donné pour cette formation politique que je ne peux pas imaginer qu'il soutienne un autre candidat que celui qui sortira de la primaire.
Vous pouvez imaginer, en revanche, que Ségolène Royal le fasse, elle, soutenir Macron, parce que ça semble être un peu dans l'air.
Oui, mais j'attends que elle aussi puisse clarifier sa position, et elle aussi, elle a suffisamment donné au Parti socialiste pour savoir que un parti, ça nécessite.
Justement, peut-être qu'elle pense que le Parti socialiste lui a pas assez donné à elle.
On est toujours débiteur vis-à-vis de sa formation politique.
Merci David Habib.
Merci.
Bonne journée.